Nous vous recommandons de ne pas modifier pendant l'écoute le réglage.
Je capte plus rien.
C'est déjà assez difficile sur la fréquence micro-ondes, mais sur la fréquence modulée avec toutes ces interférences, j'ignore pourquoi je t'écoute.
Vous écoutez Allegre FM.
Il s'agit au contraire de redonner à cette notion de service public son véritable sens.
93.1.
Pourquoi ne pas chercher une aiguille dans une botte d'aiguille?
01 40 24 29 29.
Asseyez-vous confortablement, fermez les yeux et détendez-vous le plus possible.
Voilà, maintenant vous pouvez arrêter la télévision, vous verrez, ça fait du bien.
Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui m'arrive là? Oh là 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 là. Où en sommes-nous aujourd'hui? Où est-ce qu'on est là? Allez, mais bien sûr, où avais-je la tête? C'est l'heure, c'est l'heure. C'est l'heure de l'émission. Clément Michaud, c'est quoi votre fleur préférée?
Moi, c'est la fleur de pivoine.
Pourquoi?
Elle est très belle, elle sent bon, elle annonce l'arrivée de l'été et souvent on l'offre au moment de la fête des mères.
Ah, et oui, les mamans, bien sûr. Voilà. Et un légume, une plante aromatique préférée, vous avez une préférence?
Ah, j'aime bien le basilic, et puis un légume, la tomate.
Bruno Gancel, même question?
Moi, j'aime bien les roses, parce que c'est une grande famille, et il y en a de toutes les couleurs, de toutes les formes. Il y en a qui sont très parfumées, donc, la fleur que j'apprécie, c'est la rose.
Laurence, oui. C'est quoi votre fleur préférée?
Oh pardon, ma fleur préférée, la rose.
Pourquoi?
Parce que c'est beau une rose, et puis ça me fait penser au Petit Prince.
Et vous avez une plante aromatique, vous avez un fruit préféré, un arbre préféré?
Un arbre préféré, oui, le pin parasol.
Ah, le pin parasol. Eh bien, vous le voyez, on va parler aujourd'hui d'un sujet particulier. En voilà des sacrées questions qui vont nous amener à nous en poser d'autres d'ailleurs. Toute une série de questions qui vont être débattues, auxquelles nous allons tenter de répondre durant les 56 minutes qui vont suivre. Mais avant d'aller plus loin dans les détails, avec vous tous, avec nos invités, c'est tranquillement, car nous avons le temps, 56 minutes. Eh bien, on va avancer progressivement pour découvrir où nous sommes et pourquoi nous sommes là. Dans cette émission, on apprécie de donner du temps au temps. Les sujets dont nous allons débattre demandent d'ailleurs du temps. Ce qui va se passer dans notre dos, là, que je vais décrire, que vous allez nous raconter, ça demande du temps, voilà, on va comprendre pourquoi. Allez, je vous en dis pas plus, c'est parti, en route vers de nouvelles aventures.
Bonjour, vous êtes bien sur la messagerie de l'étincelle dans la ville, présentée par Babanzelli sur Allegre FM. Laissez-moi votre message juste après le bip.
Messagerie, bonjour. La personne que vous essayez de joindre n'est pas disponible. Veuillez laisser votre message après le bip.
Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue dans l'étincelle dans la ville sur Allegre FM. Je suis très heureux de vous retrouver. Bonjour Clément Michaud.
Bonjour.
Bonjour Bruno Gancel.
Bonjour.
Bonjour Laurence.
Bonjour.
Alors, merci d'avoir bien voulu tous les trois d'accepter notre invitation, de nous recevoir surtout au micro de l'étincelle sur Allegre FM. Nous sommes en votre compagnie car vous allez témoigner aujourd'hui à propos d'un sujet passionnant qui vous tient à cœur. Vous m'avez contaminé, hein? Et c'est tant mieux puisque je suis là aujourd'hui. Voilà. Alors, en fait, en décidant de traiter ce sujet, j'ai découvert un univers étrange, incroyable, qu'on connaît tous, mais les dessous de cet univers, on le connaît beaucoup moins bien. J'en suis convaincu, c'est passionnant, l'horticulture et la fleuristerie. C'est bien ça dont il s'agit. La culture des fleurs, des végétaux d'agrément, c'est dans un environnement rempli de fleurs et de plantes que nous nous trouvons aujourd'hui. Alors, l'horticulture, la fleuristerie font partie du secteur de l'agriculture. L'agriculture, un secteur qui anime de nombreux débats en France, pour la création d'exploitations, pour la reprise d'exploitations. Et finalement, pour nous tous, l'agriculture, c'est le point de départ pour nourrir le monde. On emploie souvent le terme de terre nourricière, hein. Alors là, c'est un peu particulier parce que les fleurs et les plantes aromatiques, bon, ok, ça nous nourrit autre chose, ça nous nourrit l'esprit. Et avec tous ces bienfaits, nous allons voir comment ça se passe ici. Et c'est à l'occasion de la semaine du jardinage pour les écoles où chaque année, d'ailleurs vous entendez derrière les élèves, hein, on les entend bien, eh bien, où chaque année, les classes de maternelle et d'élémentaire sont invitées à découvrir le jardinage et le vivant. Ben oui, les plantes, c'est vivant. Alors, nous précisons, c'est donc la semaine du jardinage pour les écoles, un événement national qui se déroule depuis 25 ans. Nous sommes donc aux côtés d'élèves d'une maternelle francilienne, dans un endroit très particulier où se déroule un atelier pédagogique intitulé « Jardinière pour les abeilles et les papillons ». Une activité concrète pour comprendre comment le jardin peut devenir un refuge pour la biodiversité. Nous sommes actuellement aux fermes de Galie, à Saint-Cyr-l'École, un endroit un peu à part des sentiers battus, hein, dans un très bel environnement, entouré de plantes, de fleurs, et ça fait du bien. Et de surcroît, un endroit très sympathique. Voilà. Alors, j'ai envie de dire, cette agriculture, eh bien, elle existe. C'est donc l'horticulture. Et certains d'entre nous installent sur leur balcon, dans leur jardin, devant leur maison, des plantes, des fleurs, de l'ornement. Voilà. Nous sommes en pleine campagne ici, une campagne dans la campagne, parce qu'en réalité, on est dans un endroit couvert où il se passe plein de choses, où il pousse plein de choses. Et c'est donc depuis cet endroit, tout près de Saint-Cyr-l'École. Clément Michaud, vous êtes directeur de la ferme de Galie. L'horticulture et la fleuristerie, même si ça nous évoque à tous bien des choses, il est malgré tout nécessaire d'en préciser les contours, les tenants, les aboutissants. Voilà, c'est quoi finalement l'horticulture ?
Alors, l'horticulture, c'est une grande famille qui permet, c'est un lieu où on va produire des fleurs. C'est un lieu, c'est une profession qui va produire des fleurs, des plantes, des végétaux, dans des serres souvent, mais aussi en extérieur. Ça peut être aussi bien des plantes aromatiques, des plantes fleuries, des plantes vertes, des plantes de pépinières. C'est ça, cette grande famille de producteurs.
Le mot horticulture provient du latin hortus.
Oui.
On est d'accord ? Qui signifie jardin. L'horticulture désigne l'art de cultiver les jardins, les fleurs, les plantes, ornementales, les fruits, les légumes, mais également la conservation des plantes, la gestion des sols, la conception des paysages, la restauration. L'horticulture est donc en quelque sorte la science et la pratique de cultiver les fruits, les légumes, les herbes aromatiques, les plantes d'ornement. Bien que le terme contienne le latin horti, donc qui signifie jardin, il renvoie également à la gestion des cultures rentables, mais elle exclut les grandes cultures arables comme les cultures de céréales, les légumineuses, le coton, le blé, etc. En fait, les cultures horticoles sont à la fois pérennes et annuelles. C'est le cas ici.
Oui, tout à fait. Ouais. Ici, on va cultiver des plantes vivaces, mais aussi des plantes annuelles, des bisannuelles, et aussi des plantes de pépinières qui vont pouvoir durer des années et des années.
Alors pour compléter le tableau, il faut noter que dans les branches de l'horticulture, il y a l'oléiculture, la culture des oliviers, la pomologie, j'ignorais tout ça, la culture du fruit et des noix, la viticulture, la culture de la vigne, la floriculture, on en a un petit peu évoqué deux mots, la culture des plantes.
Oui, tout à fait, il y a effectivement aussi les fleurs coupées qui rentrent complètement dans le cadre de l'horticulture.
Voilà, la culture des plantes à fleurs, les plantes d'ornement. Et bien que tout cela se croise, finalement la différence entre l'horticulture et l'agriculture, c'est la suivante. L'horticulture est une subdivision de l'agriculture qui s'occupe du jardinage des plantes. Voilà. C'est important parce que c'est une profession qui regroupe beaucoup de gens dans ce pays. Vous faites aussi partie d'une interprofession, à cette ferme de Galie, pour défendre ce secteur d'activité qui emploie du monde. C'est toujours depuis la ferme de Galie que nous sommes aujourd'hui pour cette visite impromptue avec cet atelier consacré aux papillons et à la biodiversité, aux abeilles. Alors, Clément Michaud, finalement, vous allez animer cet atelier, vous allez nous raconter, ça se passe comment ?
Oui, tout à fait. Ben là, on accueille effectivement des scolaires et l'idée, c'est de leur faire découvrir le végétal et mettre les mains dans la terre. Donc en fait, là, ils vont semer des petits pots individuels qu'ils vont pouvoir ramener chez eux. Donc là, ils vont planter des petites graines de capucine qu'ils vont pouvoir arroser chez eux et puis ils vont la voir pousser. Et puis on va donner aussi à l'école une jardinière de fleurs mellifères qu'ils vont planter à l'école et qu'ils vont pouvoir voir évoluer et puis éventuellement observer les insectes qui viendront butiner cette jardinière.
C'est un événement où ils sont invités, c'est gratuit.
Oui, tout à fait, c'est un événement gratuit organisé par Valor et CMA. Et,
alors, on précise quand même ce que c'est Valor, hein, allez.
Oui, Valor, c'est l'interprofession qui regroupe donc tous les métiers de l'horticulture, du commerce et du végétal en général.
Et de la distribution et de tout ce qui est plantation, ferme, horticole, etc.
Oui, voilà, c'est ça, exactement. Et des pépinières également.
Voilà. Donc, je le répète, c'est à l'occasion de la semaine du jardinage pour les écoles. C'est chaque année. C'est donc une invitation à découvrir le jardinage et le vivant. C'est la 25e année que ça existe. Alors, on va continuer avec vous parce que, en fait, je vais vous laisser partir. Je sais que vous animez l'atelier, je vous ai bloqué, vous me pardonnerez.
Oui, oui,
allez,
bien sûr.
Et on continue avec vous, Bruno Gancel. Alors, vous m'avez parlé des roses, hein, c'est votre truc, vous aimez bien les roses.
Oui, j'aime bien les roses, comme je vous le disais. C'est une plante qui est d'abord jolie à l'œil. Vous en avez de toutes les formes, des grosses, des plus petites. Vous en avez qui ont beaucoup de pétales, des roses doubles, vous en avez qui sont très parfumées, et il y en a d'autres, c'est juste le plaisir des yeux. Donc la rose est vraiment une grande famille, vous pouvez les avoir plantées en massif, hein, pour faire une belle décoration devant une maison, vous pouvez les mettre en isolé dans une pelouse. Donc le rosier, c'est une plante qui peut se prêter à de multiples utilisations.
Eh ben ça tombe bien, vous allez nous emmener, on va se balader, vous allez nous raconter, ok? Allez, on va à un endroit où il y a plein de plantes, c'est l'idéal pour que vous nous racontiez. Comment ça se passe pour la conservation des plantes avant qu'elles soient vendues?
Ben les plantes, alors d'une part nous on commercialise une partie des plantes qu'on produit nous-mêmes, donc c'est très facile, on a une exploitation de production qui se situe à 10 km d'ici, donc les plantes ne font pas nécessairement beaucoup de transport. Une fois qu'elles arrivent, on les installe en magasin, on les met forcément dans des espaces très lumineux. Vous pouvez voir qu'à l'intérieur du magasin, ici, tout est vitré. On est dans des sortes de grandes serres, ce qui permet d'installer nos plantes dans de bonnes conditions. Quand les plantes arrivent chez nous, on en prend grand soin. On les met dans un environnement très lumineux parce que la plante va pouvoir se développer qu'en présence de lumière, hein. Si on les met dans une pièce sombre, ça ne va pas le faire. Et on prend soin de l'ensemble de nos plantes. Et donc, elles sont, par exemple, arrosées. Alors, ce à quoi il faut faire attention, c'est que toutes les plantes n'ont pas les mêmes besoins. Donc, ça demande une grande connaissance de la part de ses collègues pour qu'ils arrosent les végétaux une fois par jour pour certains. Il y en a d'autres à qui on va amener de l'eau que tous les deux ou trois jours parce qu'ils n'aiment pas les sols trop humides. Donc tout ça sont des conseils qui sont après expliqués aux gens qui viennent chercher des végétaux. Mais donc les végétaux, une fois qu'ils sont arrivés, ils sont installés dans les meilleures conditions et on apporte vraiment du soin pour qu'ils continuent de s'épanouir et de se développer.
Bruno Gancel, on l'a bien compris, vous participez, faites partie de la chaîne de l'horticulture et de la fleuristerie. Cette profession, ces professions, parce qu'en réalité c'est plusieurs professions qui s'enchaînent les unes derrière les autres, ont également besoin d'un soutien, ont également besoin de performances économiques, et la responsabilité sociétale et environnementale des entreprises de la filière horticole, c'est important.
C'est effectivement fondamental. La responsabilité sociétale des entreprises, hein, ce qu'on appelle la RSE, est vraiment au cœur de nos préoccupations. On fait attention sur un plan écologique, bien évidemment, en prenant soin des végétaux qu'on utilise, en utilisant des techniques de production qui sont le plus respectueux possible de l'environnement. On a une fonction sociale évidente parce que les métiers de l'interprofession sont des métiers de main d'œuvre qui nécessitent donc des collaborateurs, des salariés. Donc on embauche et on crée de la valeur. Donc oui, les sujets de responsabilité sociale des entreprises sont des préoccupations fortes au sein de la filière végétale et au sein des entreprises de Valor.
Si vous me permettez, Bruno Gancel, on va revenir aux ateliers que vous organisez. Finalement, c'est quoi le but? Pourquoi inviter des jeunes enfants à des ateliers de ce type pour les fermes de Galie?
Le but, il est assez simple. Nous nous trouvons en région parisienne, dans une région qui est par définition très urbanisée, où tout le monde n'a pas accès au végétal et au vert. Tout le monde, tous les enfants n'ont pas la possibilité de mettre les mains dans la terre, de toucher le végétal, de comprendre le lien qui est entre le végétal et la microfaune, hein, c'est-à-dire tous ces insectes pollinisateurs. Et donc nous, la pédagogie au sein des fermes de Guélie est quelque chose de très important qu'on développe à l'année au travers de nos fermes pédagogiques. Et spécifiquement au printemps, chaque année, on participe à cette semaine du jardinage à l'école pour justement participer, faire cet effort de pédagogie, faire se rencontrer les jeunes enfants. Vous avez vu, c'est des enfants qui ont 6-7 ans, ils sont tout jeunes. Et ben, chaque enfant va pouvoir mettre les mains dans la terre, faire ses petits semis, mettre les graines dans la terre, va comprendre que mettre la graine dans la terre, c'est nécessaire, mais qu'il va falloir l'arroser, puis qu'il va falloir prendre soin de son végétal. Et puis, comme on vous l'a dit, on va offrir également aux classes des jardinières de plantes pollinisatrices. Et donc, les enfants, lors de l'année, tout au long de l'année, ils vont pouvoir voir tous les petits insectes qui vont venir sur les plantes, les abeilles, les papillons, les petites mouches, parfois quelques petits coléoptères. Et ils vont faire le lien entre le végétal et le monde animal. Et puis après, on peut aller plus loin en leur expliquant que le rôle de ces pollinisateurs, c'est d'assurer la reproduction sexuée des végétaux. Hein, si on prend l'exemple bien connu de la pomme, nous-mêmes, nous sommes cultivateurs de fruits, de pommes et de poires. S'il n'y a pas de pollinisateurs, s'il n'y a pas, on dit de manière abusive, s'il n'y a pas d'abeilles, l'abeille étant le représentant le plus connu de la famille des pollinisateurs, mais s'il n'y a pas de pollinisateurs, il n'y a pas de fruits, il n'y a pas de reproduction, il n'y a pas de fruits. Et donc l'idée, c'est de sensibiliser les enfants, les jeunes enfants, au fonctionnement de la nature et à l'importance de ces pollinisateurs et à la nécessité de les protéger. Et protéger les pollinisateurs, ça peut être des gestes assez simples qui sont faisables par tous, puisque à travers des petits pots, des petites jardinières, on va pouvoir mettre des plantes qui fleurissent et qui vont attirer ces petits insectes.
On va revenir, Bruno Gancel, aux enjeux sanitaires du végétal. Vous améliorez la qualité des produits et de l'offre en favorisant l'innovation et la recherche. Il y a de la recherche et de l'innovation dans ce domaine de l'horticulture et de la fleuristerie ?
Bien évidemment, il y a plein de recherches. Il y a de la recherche variétale, de manière à avoir des plantes nouvelles qui peuvent avoir de l'originalité de par leur couleur. Il peut y avoir de la recherche variétale qui vise à développer des résistances à certaines maladies ou des résistances à la sécheresse. On sait que le climat se réchauffe, qu'on est confronté de plus en plus à des périodes de sécheresse longue et intense. Et donc il y a de la recherche qui est faite par les obtenteurs de manière à pouvoir proposer des variétés qui sont particulièrement adaptées à ces nouvelles conditions. Donc oui, il y a de la recherche dans le monde du végétal. On peut parler également de la recherche qui est faite sur notamment des variétés de pommes. Hein, des variétés de pommes qui vont être résistantes à certains champignons. Je pense notamment à une maladie qui s'appelle la tavelure. Et il y a beaucoup de recherche qui est faite pour développer des variétés de pommiers qui vont être résistants à ce champignon. Ce champignon qui est mauvais, hein, il ne faut pas le manger. Donc vous avez deux solutions. Soit il faut s'en préserver, soit il faut utiliser des variétés qui sont elles-mêmes résistantes. Donc la recherche permet de sélectionner des variétés adaptées soit au milieu, soit résistantes à certaines maladies.
Pour les auditeurs qui nous rejoignent, je rappelle que nous sommes à Saint-Cyr-l'École en compagnie de nos invités aux fermes de Guélie dans le département des Yvelines où se déroule actuellement un atelier pédagogique avec des enfants d'une maternelle qu'on ira rejoindre un petit peu plus loin. Une opération intitulée Jardinière pour les abeilles et les papillons, une activité concrète pour comprendre comment le jardin peut devenir un refuge pour la biodiversité et pour tous ces jeunes enfants. Et oui, la sensibilisation à la biodiversité commence très tôt, avec les mains dans la terre, c'est ce qui se passe aujourd'hui, car c'est exactement ce qui va donc se passer durant cet atelier. Pour ce petit événement, avec les tout-petits, des petites écoles maternelles, hein, qui vont découvrir le jardinage et le vivant. Si vous me permettez, Bruno Gancel, nous allons faire une première pause musicale entre deux plantations.
Allons-y, écoutons quelque chose de doux.
Voilà, bah, alors justement, la chanteuse qui va interpréter le morceau qui va suivre est née en 1957 à Suresnes. Pas très loin d'ici d'ailleurs. Elle est une autrice, compositrice, interprète. Entre 1979 et 2007, elle forme avec son ami Fred un groupe détonnant, vibrillonnant, avec des propos au vitriol. Les chansons de ce duo continuent d'ailleurs à animer toutes nos soirées festives. Fille d'un architecte et d'un peintre d'origine juive, elle écoute Oum Kalthoum et Maria Callas. Elle joue de la flûte, elle chante des chansons de Georges Brassens, mais elle découvre également The Velvet Underground et les Rolling Stones. Elle écrit également des poèmes. À l'âge de 8 ans, elle devient un mannequin enfant pour des catalogues tout en faisant la couverture des journaux de mode afin d'améliorer la situation financière de sa famille. À l'âge de 11 ans, elle joue dans les deux coquines réalisées par Marianne Oswald. Elle quitte le foyer familial à l'âge de 13 ans. Pendant un temps, elle assiste en auditrice libre à des cours à l'université et s'intéresse au théâtre, à la danse, au chant. Et à 15 ans, elle quitte l'école et se consacre à une carrière artistique. Le morceau que l'on va écouter est très particulier, beaucoup moins connu que certains de ses tubes. Il est extrait de son album qui a pour titre Chronique et Fantaisie, mais rappelons-nous, il y a eu aussi une époque avec les Rita Mitsuko. Là, pour le morceau que l'on va entendre, c'est très particulier. Allez, on écoute La Petite Planète, interprétée par Catherine Ringer, c'est sur Aligre FM et c'est dans L'Étincelle dans la ville.
Après le bip.
Voilà, c'était La Petite Planète interprétée par Catherine Ringer. C'est sur Aligre FM, c'est dans L'Étincelle dans la ville. Et pour celles et ceux qui nous rejoignent, je rappelle que nous allons continuer notre route avec cette visite qui nous anime et que nous menons aux fermes de Galy à Saint-Cyr-l'École, où nous trouvons actuellement et où il se déroule donc cet atelier pour enfants, pour des enfants de maternelle. Donc l'atelier pédagogique intitulé « Jardinière pour les abeilles et les papillons, comment le jardin peut devenir un refuge pour la biodiversité ». Bruno Gancel, vous nous accompagnez depuis le début de cette émission et on a vu avec vous dans la serre comment ça se passe, les plantes, vous nous avez raconté plein de choses, les soins que vous prenez. Mais là, vous avez un autre endroit dans les fermes de Galice, c'est d'ailleurs une ferme qui date du, si je regarde bien le panneau, venez par là. Voilà.
Du 11e siècle.
Alors attendez, je vais mettre le micro, elle date du...
Elle a été décrite pour la première fois en 1163, donc vous voyez que c'est une ferme qui a vu passer des gens et du temps.
Alors, vous l'avez transformée en mille et une choses, mais il y a une partie de cette ferme où vous organisez des ateliers pédagogiques. Beaucoup de monde qui passe toute l'année ?
Effectivement, c'est une ferme. Une partie des bâtiments est consacrée à une ferme pédagogique. Une ferme pédagogique qui a vu le jour en 1995. C'est une ferme qui est ouverte tous les jours, deux semaines, tous les jours de week-end. Elle doit fermer une petite semaine au moment des fêtes de fin d'année. Et on accueille quotidiennement le grand public et notamment des enfants. Donc, durant la période d'activité scolaire, on accueille des classes, 6 à 8 classes par jour. Cette activité que je vais vous présenter maintenant est une activité qui n'est pas gratuite. L'entrée est payante.
Ça coûte combien ?
De manière très modique, pardon, c'est de l'ordre de 4-5 euros par entrée. Donc, vous voyez que ça reste très accessible. Et dans cette ferme, on va pouvoir proposer plein de choses. Il va y avoir d'une part des visites en accès libre. On va pouvoir aller regarder ça ensemble.
Pendant que vous nous racontez ça, on y va, allez.
D'accord, donc on va rentrer dans la ferme et vous allez voir qu'il y a à la fois des espaces avec plein de panneaux pédagogiques au travers de... qui présente différents ateliers, des ateliers liés à la fabrication du pain, des ateliers de connaissance de la société des abeilles. On a un autre atelier où on invite les enfants à découvrir comment est-ce qu'on fabrique de l'huile de colza. Et puis nous irons également dans la cour de la ferme pour découvrir un petit peu la diversité des animaux de la ferme. Nous ne sommes pas une ferme de production. On est une ferme pédagogique où on emmène les enfants à la découverte. Mais on ne va pas produire des productions agricoles sur cette ferme-là.
Alors ça tombe bien parce que vous avez parlé de cette grande cour, on va l'appeler comme ça, entourée de tous ces bâtiments majestueux qui datent du 12e, c'est bien ça ?
C'est ça, première description, 1163.
Et là on va rentrer dans cet atelier, je vous laisse ouvrir la porte. Alors nous voici donc dans cet atelier.
Donc la première chose qui moi me surprend quand on rentre, c'est déjà l'odeur. On sent que ça a eu une odeur de bois et de bois qui a brûlé, qui a chauffé. La raison, elle en est toute simple, c'est ce grand four à bois qui se trouve devant nous. Il est actuellement, il reste des braises tout au fond, on peut les voir. Quand on met la main à l'entrée du four, on sent cette chaleur. Et juste à côté de ce four se trouve... des grandes tables, des tables sur lesquelles les enfants ont préparé du pain, ont fabriqué du pain. On peut voir derrière, au niveau de l'évier, les petits pétrins, ces sortes de bassines. Donc chaque enfant a eu un petit pétrin, il a pesé sa farine, on a mis l'eau, on a mis le sel, la levure, et sous l'accompagnement d'un animateur, ils ont pétri, parce que pour faire du pain, il faut seulement 4 éléments. Il faut pétrir, il ne faut pas pétrir n'importe comment, il y a des étapes à bien respecter. Donc chaque enfant a pétri son pâton, l'a laissé lever, et puis après a été enfourné, ce qui permet après à chaque enfant qui est venu faire son atelier à la ferme de rentrer chez lui avec un pain qu'il a fait avec ses mains.
Alors vous m'avez parlé aussi de comment on fabrique de l'huile.
Oui,
on y va, c'est de l'autre côté ?
Alors c'est de l'autre côté. Avant d'aller à l'huile, et je vais vous expliquer, et ça va faire le lien avec l'atelier qu'on a vu tout à l'heure, un petit peu la société des abeilles. Donc vous pouvez voir ici, devant nous, on est installé devant une ruche vivante, hein, une ruche qui est en toute sécurité, derrière des vitres. et on voit les abeilles qui rentrent et qui sortent.
On est dans la ferme pédagogique, il y a une baie vitrée et de l'autre côté il y a une ruche qui fonctionne avec ces abeilles qui tournoient dans tous les sens, qui rentrent et qui sortent sur l'extérieur et depuis l'intérieur, en toute sécurité, bien que les abeilles sont des gentilles bébêtes en principe, eh bien on les voit fonctionner, on les voit rentrer, on les voit sortir, on les voit s'activer et travailler. Et d'ailleurs vous l'avez très bien décrit, ces petites boules jaunes, racontez-nous, c'est quoi ?
Ben, ces petites boules jaunes, c'est des boules de pollen. C'est-à-dire que les abeilles, quand on parle des abeilles, les gens vont tout de suite nous parler de miel. Donc la vocation d'une abeille, c'est pas de fabriquer du miel. La vocation d'une abeille, c'est d'aller chercher du pollen et chercher du nectar pour faire des réserves de nourriture pour nourrir la colonie. Et donc ces boules qu'elles ont sur les pattes arrière, c'est des boules de pollen. Le pollen est un matériau, une matière qu'elles vont retrouver dans les fleurs. Et c'est une matière qui est très riche en protéines. Et donc c'est très important pour les abeilles, pour le développement des colonies, pour la nourriture des larves des abeilles, de disposer de réserves au sein de la ruche, de réserves de pollen. À côté de ce pollen, des abeilles vont également chercher du nectar. Le nectar, c'est un liquide sucré qu'elles vont ramener à la ruche. Une fois qu'elles ont ramené le nectar à la ruche, elles vont se le passer d'abeille en abeille et puis elles vont remplir des rayons. Il va y avoir un système de ventilation pour arriver à abaisser la teneur en eau de ce liquide. Et quand on arrive aux alentours de 17-18% d'hygrométrie, on obtient du miel. Et donc les abeilles dans la ruche vont stocker notamment ces deux produits, le pollen et le miel issu du nectar, pour ce dernier. Et ça va permettre de nourrir la ruche. Et de l'autre côté, en face de cette ruche vivante, vous avez tous les ustensiles de l'apiculteur, avec les cadres, des couteaux à des operculés, des enfumoirs, des vareuses, cette espèce costume, de cosmonaute, on pourrait presque dire, que l'apiculteur va enfiler de manière à pouvoir s'approcher sans aucune difficulté de la ruche. On a devant nous des ruches où on explique les différentes parties de la ruche et puis toute une série de panneaux pédagogiques où on va pouvoir expliquer d'une part l'anatomie de la ruche, quel est le cycle de développement de l'abeille, amusant, comment est-ce qu'on va reconnaître la reine d'une abeille femelle, d'une abeille mâle. Alors on l'a représenté avec des dessins, c'est très fidèle à la réalité. La reine, elle est beaucoup plus grosse, elle va faire jusqu'à 3 cm, 3 cm et demi. L'abeille, je ne vais pas vous la décrire, vous avez l'habitude de la voir. Le mâle, il ressemble étrangement à la femelle et on le différencie au premier coup d'œil par la taille de ses yeux. Les mâles abeilles, ils ont des très gros yeux.
Eh bien, tout ça, c'est passionnant. On est dans la nourriture, vous l'avez expliqué tout à l'heure en passant devant le pétrin, enfin devant le four à bois, on va dire ça comme ça, et devant les petits pétrins pour nos chères têtes blondes. Là, on est passé devant la ruche, vous nous avez raconté. Et j'ai envie de dire, apprenez à vos enfants à jardiner, à récolter et à manger leur propre travail. Le contact avec la terre nous apprend à aimer et respecter la vie. Alors, vous nous avez parlé du pain, vous nous avez parlé du miel. Eh bien, allons vers l'huile. Comment ça se passe pour l'huile ?
Alors, nous, ce que l'on va travailler, c'est le colza. Le colza, c'est cette plante jaune qui fleurit en avril. Là, d'ici, si vous promenez dans la campagne, on commence à voir des champs qui commencent à jaunir. Donc, c'est cette plante qui va faire de grands champs jaunes, qui est de la famille des crucifères, c'est la famille des choux. Cette plante, elle va fleurir en avril, elle va continuer son développement, il va y avoir des petites gousses qui vont faire, ça s'appelle des siliques, si on veut être très précis, qui vont faire 4-5 cm de long, dans lesquelles vont se trouver des petites graines noires. Ce sont les graines de colza. Et ce que l'on fait pour fabriquer de l'huile de colza, on prend ces graines de colza, on les passe dans un pressoir, une vis sans fin. On va tourner cette vis sans fin qui va prendre des petites graines. D'un côté va sortir le tourteau de colza, c'est-à-dire cette pulpe de graines écrasée. Et dessous va goûter les petites gouttes d'huile de colza. Et c'est une huile qui a plusieurs particularités. Elle a un goût de noisette très sympathique. Elle a un très bon équilibre entre les oméga 6 et les oméga 3, ce qui est très important pour la santé. Et c'est une huile qui se mange pas chaude. C'est pas une huile qu'on va utiliser pour faire de la friture, mais c'est une huile que vous allez utiliser pour faire une mayonnaise, que vous allez utiliser pour faire une vinaigrette. Et c'est une huile qui est produite très localement.
Une huile qui ne supporte pas la cuisson tout simplement, mais une huile de très bon goût.
Exactement.
Alors j'ai devant moi des petits cubiténaires de jus de pomme. Vous produisez de la pomme, donc du jus de pomme.
Exactement. Et donc ça, c'est encore un autre atelier là devant lequel on se trouve. C'est un atelier qui est saisonnier, où la récolte des pommes, c'est entre septembre et novembre. On peut les conserver un petit peu au frais, jusqu'à peu près à cette époque-là. Et donc entre septembre et mars-avril, on fait des ateliers de fabrication de jus de pomme. Donc les enfants, là de la même manière, c'est eux qui vont faire. On va les guider, on va les faire réfléchir. Ils vont laver les pommes. Une fois que les pommes sont lavées, ils vont les passer dans cette petite machine rouge là, qui est actionnée par une grande roue qu'on appelle une grugette. Et cette grugette, elle va concasser les pommes. C'est-à-dire qu'on va mettre des pommes entières et il va retomber là, par la goulotte noire. De la pomme qui va être écrasée. On prend ces pommes écrasées, on les met dans notre petit pressoir, hein, qui ressemble vraiment à un pressoir comme ceux avec lesquels on fait le cidre. Donc c'est un pressoir miniature à la taille des enfants. Et avec une vis sans fin que les enfants vont pouvoir actionner, on va venir presser ces pommes concassées. Et le jus de pomme va sortir sous le pressoir. Et les enfants vont pouvoir déguster, goûter du jus de pomme fait à l'instant même par leurs petites mains, et ils vont voir que le jus de pomme, ça sort pas d'une bouteille. Le jus de pomme, il faut des pommes, il faut les concasser, les écraser, forcer un petit peu, et puis on se régale d'un jus de pomme.
Avant de passer à la deuxième pause musicale, si vous me permettez, Bruno Gancel, on va juste se mettre sur le bord des marches parce que on va sortir un tout petit peu du bâtiment de quelques mètres. Alors on y va, parce que là, on est où là? Racontez-nous, il y a un tracteur, il y a quatre tracteurs, ben, j'avais pas tout vu, et des enfants. Qu'est-ce qui se passe ici?
Donc ici, vous êtes, nous sommes dans la cour de la ferme. C'est une cour de ferme dans laquelle se trouvent à la fois, effectivement, des vieux tracteurs. Alors ici, on ne monte pas sur le bateau, sur le Titanic, mais il n'y a pas un enfant qui est passé à la ferme de Galie et qui n'est pas monté et qui n'a pas conduit un de nos tracteurs, des vieux tracteurs. Et autour de cette cour où il y a ces fameux tracteurs, vous voyez, tiens, un pan blanc qui fait la roue. Je ne sais pas si vous avez souvent vu des pans faire la roue, mais vous venez, c'était pas prévu, mais regardez l'attroupement, tout de suite, les enfants viennent voir le pan qui fait la roue. Il y a un autre attroupement juste à côté d'enfants qui sont devant des volailles. Alors vous avez des canards, des oies, des poules, des dindons, des pintades. Et donc on va leur expliquer comment est-ce qu'on reconnaît une pintade, d'un dindon, d'une poule. Et donc vous voyez, il n'y a plus de bruit. Les enfants sont scotchés devant les animaux.
Et oui, c'est magnifique, le pan qui fait sa roue. Un pan en plus avec une roue blanche, c'est rare. Ouais. C'est un pan albinos. Voilà, je cherche, merci.
Voilà, oui, on a un pan et de temps en temps, il chante et il crie Léon. Hein, le pan crie Léon.
Donc nous allons faire, comme je l'ai annoncé tout à l'heure, si vous me le permettez, Bruno Gancel, une deuxième pause musicale. Voilà, le morceau qui va suivre est un immense standard. À l'origine, ce morceau est un air de Porgy and Bess de George Gershwin, un standard du jazz qui a été repris par de très nombreux interprètes. Un regroupement de collectionneurs d'enregistrements affirme avoir recensé en 2020 près de 100 000 interprétations publiques, dont 80 000 qui auraient été enregistrés. L'interprète que l'on va écouter est un colosse de l'histoire du jazz. Il est né à Alton en 1926 dans l'Illinois. Il est compositeur, trompettiste de jazz américain et il commence à jouer de la trompette à l'âge de 13 ans. Il fut à la pointe de beaucoup d'évolutions dans le jazz. Il s'est particulièrement distingué par sa capacité à découvrir et à s'entourer de nouveaux talents. Son jeu se caractérise par une grande sensibilité musicale et par la fragilité qu'il arrive à donner au son. Il marque l'histoire du jazz, de la musique du XXe siècle. Et oui, beaucoup de grands noms du jazz des années 40-80 travailleront avec lui. Ça tombe bien parce que le morceau que l'on va écouter illustre parfaitement une saison que l'on aime tous, que l'on aime beaucoup. Une saison où les fleurs et les plantes sont au top, c'est ce qu'on dit. En tout cas, sur nos balcons, dans nos jardins, dans nos campagnes et pourquoi pas dans nos intérieurs. Il s'agit de la saison d'été, celle qui sent bon les vacances, Bruno Gancel. Voilà, c'est Miles Davis, c'est sur Alix, c'est dans l'étincelle dans la ville et on écoute.
Summertime.
bien sur la messagerie de l'étincelle dans la ville, présentée par Babanzelli sur Aligre FM. Laissez-moi votre message juste après le bip.
Messagerie, bonjour. La personne que vous essayez de joindre n'est pas disponible. Veuillez laisser votre message après le bip.
Voilà, c'était Summertime interprété par Miles Davis. J'espère que vous avez apprécié et que vous avez pu délecter cette perle musicale qui nous prépare à l'été. Voilà, c'est dans l'étincelle dans la ville, c'est sur LYFM, une façon donc d'illustrer ce qui se passe dans l'endroit où nous trouvons actuellement. Car je le rappelle, nous sommes aux fermes de Galy à Saint-Cyr-l'École. Pour un événement, on retrouvera la maîtresse qui anime l'événement. C'est un événement pédagogique intitulé « Jardinière pour les abeilles et les papillons ». Comment un jardin peut devenir un refuge pour la biodiversité? Mais Bruno Gancel, on continue notre route avec vous parce que là, vous nous avez emmené. Alors, racontez-nous parce que c'est ce qu'il y a de plus simple.
Ici, on entre dans les prés des chèvres. Les prés des chèvres, c'est un enclos dans lequel on peut rentrer. Les enfants rentrent. Vous pouvez voir qu'il y a une multitude de chèvres. Il y en a une qui est plus maligne que les autres, qui veut essayer de sortir. Une multitude de chèvres. Vous pouvez voir que principalement, ce sont des chèvres de petite taille, des chèvres dites naines, que l'on a ici parce que le public que l'on reçoit, c'est souvent des jeunes enfants. Et donc, l'objectif, c'est d'arriver à faire toucher, à faire caresser les animaux. Donc vous voyez qu'elles ne sont pas farouches.
Alors elles ne sont pas sauvages, hein. On s'accroupit, elles viennent nous voir. Alors elles ont peut-être envie de manger un petit truc, une petite friandise.
C'est-à-dire qu'elles sont nourries, quotidiennement. Donc on leur donne pas plus que ce qu'elles ont besoin. Sinon elles vont devenir un peu trop grosses. Mais elles ont l'habitude de se faire chouchouter, câliner. Vous voyez, il suffit de s'asseoir et elles viennent chercher des câlins et elles viennent se faire gratouiller. Elles aiment ça. Et donc ça permet, encore une fois, aux petits urbains de pouvoir rencontrer ces animaux de la ferme. Ces chèvres, elles ont des cornes. Certains en ont peur au début. Et puis, ils voient que c'est pas parce qu'un animal a des cornes qu'il va embrocher les petits-enfants.
Donc, alors justement, on parle des petits-enfants. Là, on a une classe qui est en train de passer. Ils ont quoi 6, 8 ans
7 ans, ouais. 6, 7 ans.
Voilà, ils vont donc visiter la ferme avec les animateurs, avec les professeurs. Je ne sais pas, c'est une classe, j'imagine.
Oui, c'est une classe avec Guillaume qui est devant et qui va faire découvrir les animaux de la ferme. Il va peut-être les amener dans le petit bois. Dans le petit bois, on a des différents parcours pour découvrir plein de petites bêtes, pour découvrir les animaux sauvages qui vivent dans les forêts autour, et puis pour présenter un petit peu des espèces d'arbres qui poussent dans nos forêts. Donc l'objectif, encore une fois, c'est un objectif très pédagogique de reconnexion des enfants avec la nature. Donc on a parlé de production, hein, de colza, on a parlé de production de pommes, on a parlé d'animaux, on a parlé d'agriculture. Et là, on va, outre les animaux de la ferme qui sont autour de nous, on va pouvoir également parler du sanglier, du chevreuil, de l'écureuil, et puis à travers des panneaux pédagogiques, expliquer aux enfants comment, lorsqu'ils iront se promener avec papa, maman en forêt, ils vont pouvoir voir qu'un chevreuil est passé parce qu'il a laissé une empreinte, parce qu'il a laissé une crotte, parce qu'il a écorcé un arbre. Donc à travers ces parcours qui sont dans le bois de Galy, on va donner plein de petits indices qui vont permettre aux enfants de découvrir plus en détail la nature.
Bruno Gancel, on va retourner du côté de l'atelier qui se déroule actuellement. Vous allez nous faire retraverser toute la ferme. Et voilà, de retour sur cet atelier pédagogique avec les enfants. Alors là, je retourne vers vous, Laurence, parce que l'atelier s'est bien déroulé, j'imagine. Alors, c'est quoi vos impressions? C'est quoi ces ateliers et comment ça fonctionne? Racontez-nous.
Alors, ce sont des ateliers donc, qui sont offerts à l'occasion de la semaine du jardinage et pour faire découvrir en dehors des murs de l'école cette activité aux enfants qui ne la pratiquent pas forcément. On a la chance, on est d'habiter dans un lieu très vert, mais bon, c'est une activité où il faut prendre son temps, ce que les parents et même les enseignants n'ont pas toujours le temps de faire en classe, de prendre du temps. Donc voilà, c'était bien. Ils ont planté leurs petites graines en manipulant la terre. Ils adorent ça, hein. Les enfants patouiller dans la terre, c'est C'est leur âge, c'est leur... voilà.
Vous avez une volonté de leur montrer et de leur apprendre à se réapproprier un savoir essentiel quand même, source de vie, source de notre existence, le vivant.
Exactement, exactement. Et aussi s'émerveiller. S'émerveiller devant la nature, c'est à mon avis la première chose à faire pour qu'il l'aime, qu'il la regarde et plus tard qu'il la protège en fait. On ne peut pas demander à faire du tri sélectif à des enfants qui n'en ont rien à faire de la nature. Donc c'est voilà. L'école maternelle, c'est bien pour ça parce qu'on peut, sensibiliser les enfants voilà, en s'émerveillant tout simplement. Et là, ensuite, il y a eu un autre atelier où on leur a expliqué tout le vivant qu'on trouvait dans le jardin et l'utilité qu'a chaque animal, même les petites bêtes qu'on n'aime pas forcément.
Alors justement, ce rapport à la nature que vous créez avec les petits, est-ce que vous avez d'autres occasions durant l'année dans votre maternelle, puisque vous, je le rappelle, Laurence, vous êtes la maîtresse de la petite classe de maternelle qui vient de participer à cet atelier. Est-ce que vous avez d'autres occasions durant l'année pour réaliser d'autres opérations de ce type?
Alors, c'est pas si évident que ça de faire rentrer le vivant dans l'école, parce qu'il y a déjà des normes. Moi, j'adorerais avoir un chien dans ma classe, mais, mais c'est pas possible.
Quel dommage, mais quel dommage. Allez, on lance un appel. S'il y a un futur ministre de l'Éducation nationale qui écoute l'émission, allez, monsieur le ministre, vous appelez Laurence, elle va vous expliquer comment la venue d'un animal de compagnie dans une classe, ça peut être un truc merveilleux.
Exactement, exactement.
Alors, Laurence, vous avez accompagné, vous avez décidé de créer, enfin de d'emmener vos enfants, vos élèves, vos petites chères têtes blondes à cet atelier. Il y a des parents qui accompagnent, ce sont des sorties scolaires en quelque sorte. Si vous me le permettez, on va essayer d'aller voir les parents s'il y a une possibilité, s'il y en a un ou deux qui peuvent me raconter comment ils vivent ça avec son fils, avec sa fille, ça pourrait être sympa.
Absolument, bah, écoutez, je vais vous les présenter. C'est aussi un volet qui est très important dans notre école, c'est la relation école-famille. Et on travaille beaucoup ça, et vous voyez sur une petite sortie de proximité, on est venu en tram nous, et ben on a 7 parents je crois qui nous accompagnaient sur leur journée de travail.
Sur combien d'élèves?
Sur 24.
On a pratiquement un tiers de parents qui participent, c'est merveilleux.
Oui oui, non on n'a pas à se plaindre.
Ça veut dire que ça motive les enfants, parce qu'on voit ils ont l'air contents, hein, ils ont l'air heureux, et puis ça motive les grands, les parents, ça c'est une bonne nouvelle. Hein. S'il y a des maîtresses qui nous écoutent, n'hésitez pas, utilisez la recette de Laurence, c'est pas mauvais du tout.
C'est un des pans très importants de la réussite des élèves à l'école, c'est la relation école-famille. Et que j'y suis très très attachée. Et pour, si je peux donner un petit truc à vos auditeurs.
Vous gênez pas.
Nous, on fait à l'école une action qui s'appelle « Les parents ont du talent ». Et s'ils ont une langue étrangère ou un métier à nous faire découvrir, ils sont les bienvenus, ils viennent faire un petit exposé à l'école. Les enfants adorent voir leurs parents dans l'école et nous, on apprend plein de choses.
Et ben voilà, c'est fait, c'est dit. Laurence, allez, je vous demande de bien vouloir m'aider. Quels parents je peux aller voir? Bonjour, bonjour le papa, monsieur le papa. C'est Radio Aligre, Aligre FM à Paris. On est venu faire un petit reportage sur ce qui se passe ici. Vous accompagnez la classe. Alors, avec votre fils, racontez-nous ça, qu'est-ce qui vous est arrivé. Et puis, est-ce que c'est sympa comme histoire?
Ben oui, c'est la première fois que j'accompagne la classe de mon fils. Et c'est très sympa parce qu'ils apprennent beaucoup de choses. Et puis, on voit que les enfants sont contents de découvrir comment on plante des graines, comment ça va pousser, qu'est-ce qui se passe dans le jardin. Donc c'est super intéressant pour eux. Et puis l'environnement est agréable. En plus, on a du beau temps aujourd'hui, donc c'est parfait, quoi.
C'est la recette parfaite. Alors, comment il a vécu ça, votre fils? C'est comment son prénom?
C'est Antoine.
On peut lui demander... Antoine, quoi? Bonjour Antoine. C'était sympa cet atelier, ça t'a plu?
Oui.
Alors t'as fait quoi? Raconte-nous.
J'ai planté des fleurs.
T'as planté des fleurs, mais et ça va mettre du temps à pousser.
Bien sûr, il a appris à faire... Aussi, il a appris à comprendre les animaux.
Ah d'accord, alors là c'est Maxime. Bonjour Maxime, et toi c'est comment?
Alexis.
Alors tous les trois, vous êtes copains dans la classe j'imagine, puisque vous êtes tous les trois ensemble, hein, ça se passe comme ça, non?
Oui, ils sont tous les trois ensemble.
Oui,
ils sont tous les trois ensemble.
Alors vous allez planter des graines chez vous? Vous allez demander à vos parents d'installer des pots de fleurs? Comment ça va se passer? Allez Antoine, tu me réponds.
On les a fait ici, on va les ramener chez nous.
Et vous allez les arroser?
Oui. On va les arroser 3 semaines.
Comment ?
3 jours par semaine.
Ah oui, il faut faire attention à l'arrosage, bien sûr.
Ou 2 jours par semaine.
Ou 2 jours par semaine. Alors c'est quoi, vous souvenez?
Et il faut pas les faire sécher, sinon c'est fichu.
Et vous vous souvenez le nom des plantes? Au moins une plante que vous avez...
La multicolore.
D'accord.
Il y en a une qui avait la même que le prénom d'une copine de votre classe. Comment elle s'appelle?
Capucine.
Capucine, voilà. Eh bien, Maxime, Antoine, et c'est comment ton prénom?
Alexis,
merci.
Et Garance.
Eh bien, bonjour mademoiselle Garance.
Norlia.
Bonjour Norlia. Bonjour mademoiselle. Bonjour mademoiselle, c'est mademoiselle Chloé. Alors, c'était sympa cet atelier?
Oui.
Qu'est-ce que vous y avez fait?
On a planté et on a planté des fleurs.
Et maintenant, vous allez attendre que ça pousse.
Oui. Mais on va mettre de l'eau dessus.
Ah bah oui, bien sûr. Et puis vous allez les surveiller, vous allez faire attention.
Moi, c'est pas tien chez moi.
Eh ben, c'est formidable. Merci à toutes les trois. Merci beaucoup, les enfants. Alors, on va bientôt terminer cette émission. Merci à vous, monsieur le papa. C'est comment votre prénom?
Éric.
Éric, merci beaucoup. Et je vois que ça vous plaît bien, cette histoire.
Hein. Très bien. Super sortie. Je pense qu'ils en garderont tous un bon souvenir. Ouais. Très chouette.
En tout cas, c'est mon cas. Moi aussi, j'en garde un bon souvenir. L'étincelle dans la ville va bientôt se terminer. Mais avant de nous quitter, je voudrais dire un grand merci à tous nos invités. Donc Bruno Gancel, Clément Michaud, bien sûr un grand merci à Laurence et à la maîtresse et aux parents aussi. Merci d'avoir répondu présent et d'avoir bien voulu nous accueillir aux fermes de Bailly à Saint-Cyr-l'École dans le département des Yvelines où nous avons réalisé cette émission. Un grand merci à tous d'avoir bien voulu témoigner au micro de l'étincelle dans la ville et de nous avoir permis de découvrir plein de choses. Moi j'en ai découvert des choses, voilà. Et on ne peut qu'encourager ce type d'événement. La biodiversité, ce n'est pas qu'un simple épiphénomène, hein. C'est pas une lubie, hein. C'est très important, ça existe depuis la nuit des temps et c'est très 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 important. C'est un mouvement qui doit se poursuivre car il poursuit le cycle naturel. On est bien d'accord avec vous, Bruno Gancel?
Oui, la biodiversité, c'est essentiel.
C'est essentiel, vous le dites, vous le confirmez. Et c'est aussi des métiers, finalement, qui tournent autour de tout ça. Peut-être un jour, on développera là-dessus un certain nombre de choses. L'étincelle dans la ville va bientôt se terminer. Voilà, c'est au milieu des enfants. On entend derrière moi. Merci à Francis d'avoir bien voulu participer de loin, mais je pense qu'il va se passer des choses derrière. Je voudrais aussi remercier Catherine Mignon qui nous a ouvert les portes pour réaliser cette émission. Alors tous à vos pots de fleurs, à vos graines, à vos arbustes, à vos plants dans vos jardins, dans vos balcons, chez vous, en intérieur, où vous voulez, hein, on s'en fout. Vous avez envie de faire plaisir, bah dites-le avec des fleurs. Des témoignages aujourd'hui, plein d'enseignements. On en a appris des choses, hein. Eh ouais. Et vous pouvez retrouver l'adresse mail et les podcasts de toutes les étincelles dans la ville quand vous voulez, sur le site d'Aligre FM, sur Acast, sur Spotify, YouTube. Vous pouvez aussi nous suivre sur Facebook. À la réalisation technique, je remercie Didier Robert. Avant de nous quitter, j'aimerais vous préciser que Aligre FM est avant tout un espace d'expression, de partage, de rencontres, d'échanges, animés par un collectif de gestionnaires, de journalistes, d'animateurs et de réalisateurs techniques, libres et indépendants, qui, signalons-le au passage, sont tous bénévoles. Voilà, tout au long de l'année, au micro d'Aligre, nous recueillons des paroles en prenant le temps de penser, de scruter, de contempler le monde dans toutes ses composantes. C'est ce qu'on a fait, Bruno Gancel, aujourd'hui. On en a pris du temps. Hein.
Je pense qu'on a bien présenté le monde dans toute sa diversité et l'importance qu'il faut lui consacrer.
Aligre FM, c'est sur votre poste de radio sur le 93.1, sur tout Paris-Île-de-France, en DAB+, à la radio numérique et bien sûr sur les écrans web, partout, téléphone, tablette, etc. Voilà, c'est quand vous voulez, où vous voulez, pour écouter toutes les émissions de mes petits camarades de la grille des programmes d'Aligre. Et je vous encourage à faire un petit tour sur le site d'Aligre FM pour en savoir plus. Permettez-moi de vous rappeler que c'est gratuitement que vous écoutez nos programmes sur Aligre FM. Et oui, c'est un média gratuit pour tout le monde. Et pour l'occasion, eh bien, je précise que Aligre FM est une radio associative non commerciale, sans publicité, qui fête ses 45 ans d'existence. C'est loin d'être anodin. Vous souhaitez soutenir Aligre, pour cela rien de plus simple, rendez-vous sur le site internet d'Aligre FM et vous pouvez tout simplement faire un don. Voilà. Je voudrais remercier aussi tous les collectifs qui organisent Aligre FM, René Clancy, Yasmine Bendali, Jade Jiang, Armand Gury, Philippe Denefort, Renaud Poussin de Wilt. C'est les TCR, les techniciens chargés de réalisation et les administratifs, ainsi que Bruno Mondé et Enrico Mastro Giovanni. Et le collectif Le Moment, notre partenaire qui réalise l'émission qui a pour titre Le Moment. et que vous pouvez retrouver chaque semaine sur Aligre. Voilà, à la post-production, merci à toute l'équipe de l'Étincelle, dont Didier Robert, Stéphanie Malaret, Gaspard Proudhon. Il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir, Bruno Gancel.
Au revoir.
Alors on va essayer de dire au revoir à la maîtresse. Elle est où la maîtresse? Laurence, oui. Je vous dis au revoir. Merci pour tout.
Bah, de rien, merci à vous.
Pour ma part, eh bien, il ne me reste plus qu'à vous saluer et bien sûr, vous retrouver lundi prochain, comme chaque semaine, car on vous retrouve avec grand plaisir pour réaliser cette émission. Voilà, cette émission qui a été réalisée depuis les fermes de Galie, située à Saint-Cyr-l'École. Alors, c'est très simple, depuis Paris, c'est gare Montparnasse, hein. C'est bien ça, Bruno Gancel?
Gare Montparnasse, on prend la ligne N et on sort à Saint-Cyr-l'École. Vous êtes à 5 minutes à pied.
Voilà, 30 petites minutes en train et ensuite, il y a même un... Il y a même un tramway qui nous y amène.
Il y a même le tram 13 entre Saint-Cyr et puis l'arrêt Allée-Royale.
À l'occasion de la semaine du jardinage pour les écoles, qui invite chaque année des classes de maternelle, qui permet de découvrir le jardinage, le vivant. Tout ça, c'est une opération de sensibilisation qui est proposée aux maternelles. Aujourd'hui, c'était jardinière pour les abeilles et les papillons. Et terminé, voilà. Et bien, pour le coup, en ce qui me concerne, en ce qui nous concerne pour aujourd'hui, l'Étincelle dans la ville, c'est terminé.
Les brouillages. De sinistres mémoires ont repris.
En cas de brouillage, cherchez noyeur sur votre cadran.
Aligre FM 93.1.
On peut changer la fréquence en une demi-heure.